France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment repérer et mettre fin à une relation toxique? C'est notre thème ce matin. Comme l'affirme l'une de nos invitées, Clotilde Le Guil, le mot toxique désigne aujourd'hui un nouveau champ de l'expérience. Amitié, amour, relation de travail, famille toxique. Comment expliquer cette extension du domaine du toxique dans tous les pans de notre vie? Comment repérer ces relations qui nous empoisonnent? Comment s'évader de cette prison invisible? Comment s'en dégager durablement? Comment respirer à nouveau un air frais non vicié? Élément de réponse avec nos invités au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Clotilde Le Guil.
Bonjour.
Vous êtes normalienne, philosophe et psychanalyste, professeure au département de psychanalyse de l'université Paris 8 et vous aviez publié en 2023 « L'ère du toxique, essai sur le nouveau malaise dans la civilisation » disponible en poche au PUF. Un essai très clair, très pédagogique et sans jargon psychanalytique.
Oui, je me suis intéressée à un terme qui n'est pas un terme de la psychanalyse en l'occurrence. Je me suis intéressée à ce terme de toxique parce que j'ai été frappée aussi dans la clinique avec les patients de la façon dont ce terme était entré dans la langue pour parler de la souffrance. Et j'ai été frappée par le fait que cet usage du terme de toxique à propos du rapport à l'autre, à propos de l'amour, à propos de, vous avez cité les familles, à propos de l'héritage, était un terme qui avait trouvé un nouveau sens dans notre moment et qui n'était pas employé en tant que tel au XXe siècle. Donc ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer, en tant que psychanalyste et en tant que philosophe, d'interpréter et d'élucider ce nouvel usage du terme de toxique dans notre moment.
Bonjour Cécilia Como.
Bonjour
Ali. Vous êtes psychanalyste, thérapeute spécialiste du couple, sexologue, clinicienne, et vous avez récemment publié chez Albin Michel « J'ai envie, moi non plus », dans le Petit Larousse illustré 2026. Toxique, c'est bien sûr la substance nocive pour les organismes vivants, se dit aussi d'une personne ou d'une relation psychologiquement nocive, pernicieuse. Quelle est votre définition du toxique, Clotilde de Le Guil?
Mais c'est bien que vous citiez d'abord le sens propre, c'est-à-dire le premier sens du terme, qui était le sens qu'on trouvait au XIXe siècle, le sens de substance toxique, parce que finalement, ça nous aide aussi à interpréter cette métaphore actuelle qui consiste à employer un terme qui auparavant désignait des substances nocives et qui renvoyait finalement à la drogue, aux stupéfiants, d'employer ce terme aujourd'hui pour parler du rapport à l'autre. Et donc peut-être que on cherche à désigner par là une certaine modalité de rapport à l'autre qui produit quelque chose comme une forme d'empoisonnement, de nocivité, mais en même temps peut-être aussi une forme de plaisir. Hein, et qu'on n'arrive pas véritablement à identifier, parce que je dirais que le propre d'une relation toxique, c'est peut-être qu'elle nous fait faire une expérience qu'on n'aperçoit pas comme toxique, et c'est seulement dans un après-coup, lorsqu'on a fait en quelque sorte un pas de côté, qu'on s'aperçoit qu'il y avait quelque chose dans cette expérience qui venait à nous malmener.
Cécilia Como, une relation toxique, c'est une relation qui produit donc un effet néfaste, nocif sur nous, et c'est une relation qui produit du malaise même après coup.
Oui, je trouve que c'est très très juste ce que dit Clotilde sur l'espèce de flou dans lequel sont les gens au moment où ils décrivent la relation. Je l'ai vécu hier, donc j'ai pu me rendre compte que c'est moi qui posais le mot de toxique, pas du tout la personne, alors que ce qu'elle décrivait était nocive, qu'elle était clairement malmenée. Je dirais que dans une relation dite que je considère toxique, ce dont je m'aperçois dans les couples, plus précisément dans ce type de relation, c'est qu'on s'aperçoit très nettement quand même d'une réduction de la liberté. On se rend compte qu'il y a une dévalorisation qui est pas forcément franche, qui peut être aussi assez subtile sur des remises en question de ce que quelqu'un fait. Il y a des menaces, alors soit des menaces de partir, soit la relation va s'arrêter à cause de toi. Et autre chose, c'est qu'il y a des promesses qui sont faites et qui sont souvent sans changement derrière. Et quand tout ça, en fait, se retrouve ensemble, parce que je dis souvent, c'est pas un épisode qui rend toxique une relation. C'est vraiment là une dynamique, c'est une répétition. C'est pas un problème, c'est un lien qui est en souffrance.
Et la souffrance ne vient pas seulement d'un problème à résoudre, mais provient du lien lui-même.
Oui, c'est vraiment une histoire de dynamique, d'interaction qui se joue, et c'est peut-être d'ailleurs pris dans ses filets que la personne qui perd sa liberté, qui perd aussi sa boussole très souvent, ne voit rien venir. C'est un peu la cuisson du homard. Hein. Ça commence froid et puis ça chauffe petit à petit et la personne reste en fait dans la relation.
Oui, peut-être que quand on parle d'une expérience toxique, parce que moi j'en ai plutôt parlé en ces termes, c'est-à-dire d'une expérience subjective qu'on considère comme toxique, peut-être qu'on ne sait pas très bien finalement à quoi on a affaire et qu'il y a aussi une énigme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on a pu même consentir à une expérience qui est venue malmener quelque chose du désir. Mais il me semble que par ce terme de toxique, on désigne aussi une forme d'angoisse. C'est-à-dire, c'est la définition freudienne de l'angoisse Freud considère que l'angoisse, cet affect que l'on éprouve est le signal d'un danger interne. Et donc, il me semble que c'est intéressant de ne pas aborder le toxique uniquement en termes de l'autre qui serait toxique, mais en termes aussi du rapport du sujet lui-même à son corps et à son expérience subjective.
Le champ du toxique s'applique désormais au discours, aux relations amoureuses, amicales, à la vie sexuelle. Le toxique, c'est devenu le poison de notre temps.
Moi, j'ai essayé de le définir un peu comme l'obscur poison de notre temps. En tout cas, on pourrait considérer que c'est un terme qui vient désigner un nouveau malaise dans la civilisation. C'est une nouvelle façon de dire le malaise qui se rapporte en même temps directement au corps et au vivant. Parce que le toxique, vous le rappeliez Ali avec la définition du Littré, le toxique c'est d'abord une substance. Donc c'est une substance qui s'immisce en notre corps. Et là, si on prend le sens métaphorique, on pourrait dire que cette substance, elle passe aussi par les discours. Certains discours qui produisent un effet dit toxique.
Pendant longtemps, Clotilde de Le Guil, vous êtes méfiée de ce mot toxique, il ne faisait pas partie de votre langue ou de votre façon de dire. C'était pour vous un mot à la mode que tout le monde employait sans forcément savoir ce qu'il voulait dire exactement. Et puis, ce mot de toxique s'est progressivement imposé à vous à force d'entendre ce mot dans la bouche de celles et ceux qui parlent de leurs maux, de leur malaise, de leurs tourments, de leurs angoisses. Et vous avez commencé à l'employer.
Oui, mais c'est vrai qu'au départ, moi, c'est pas du tout un terme que j'employais, mais c'est ce qui m'a permis aussi peut-être de m'intéresser à ce nouvel usage. Parce que justement, ce terme ne faisant pas partie de ma langue, je me suis demandé ce qui faisait qu'on avait affaire à une sorte de viralité aussi de ce terme de toxique qu'on pouvait prendre au départ effectivement simplement comme un effet de mode. Mais après, en tant que psychanalyste, on prend aussi au sérieux la façon dont parlent les sujets et les termes qui peuvent venir désigner quelque chose de l'énigme d'une souffrance. Et il me semble que le terme de toxique a pris un nouveau poids pour désigner quelque chose du malaise, de l'angoisse et de la fragilité.
Mais pourquoi parle-t-on autant de toxique aujourd'hui ? On peut parler de relations toxiques en remontant à l'Antiquité, et puis il y a des tas de romans que vous citez dans votre ouvrage, des romans du 19e siècle notamment, Madame Bovary, où Madame Bovary est affectée par des liens toxiques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce mot toxique est aussi à la mode, entre guillemets, plus qu'à la mode, il s'est imposé dans le langage courant?
Ce qu'il faut noter, ce qui est nouveau, c'est que le terme s'est imposé dans le champ des relations à l'autre et dans le champ de l'intime. Parce que quand vous dites que finalement on peut se référer aussi au toxique à propos de Madame Bovary de Flaubert, en effet je propose une analyse de Madame Bovary dans l'ère du toxique, il faut quand même noter que du temps de Flaubert, on ne parle pas de toxique, mais on parle de poison. Et il y a effectivement aussi à interpréter ce changement de registre du poison au toxique. Et Alors effectivement, moi j'ai cherché à éclairer quelque chose de l'intoxication amoureuse à partir du roman de Flaubert, parce que ce qui est quand même fascinant dans le parcours d'Emma Bovary, c'est qu'en effet, elle termine sa vie par un empoisonnement, et que cet empoisonnement réel vient peut-être dire quelque chose de la façon dont elle a été empoisonnée par les grands romans d'amour qui l'ont conduit à vouloir se suicider et à se perdre dans l'amour.
Petite précision, toxique vient du grec toxikon, qui vient de l'adjectif toxikos, qualifiant les flèches, toxikos, dérivé lui-même de toxon, qui veut dire l'arc.
Ben, merci de citer effectivement cette étymologie, et surtout cette archéologie du toxique, parce que moi je me suis intéressée au terme lui-même, et le fait d'apercevoir que ce terme de toxikon n'était pas seulement un terme qui s'était imposé dans notre langue depuis l'anglo-saxon, depuis le toxique anglo-saxon, mais que finalement c'était un terme qui avait une histoire, c'est un terme qu'on rencontre chez les Grecs, mais qui ne s'applique pas du tout au rapport à l'autre, qui s'applique au poison dont on imprègne les flèches à la chasse ou à la guerre. Et bien le fait de s'intéresser au toxikon m'a permis de faire une distinction entre le toxikon et ce qu'on appelle le pharmakon, qui est le remède et le poison, alors que le toxikon est purement poison.
J'imagine, Cécilia Como, que dans le secret de votre cabinet, des patientes et des patients consultent pour évoquer une relation toxique qui empoisonne leur vie.
Beaucoup, mais je suis pas certaine qu'ils, ils emploient pas forcément ce mot. C'est ça qui est surprenant. Ils décrivent des relations, des interactions qui sont douloureuses. Ils décrivent un état psychique qui est loin d'être le bien-être, mais formulent pas forcément comme ça. D'abord parce que je pense que pour eux, ça pose quelque chose de très grave dans la relation, et ça pourrait signifier que cette relation doit se terminer, et c'est pas ce dont ils ont envie. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur ce terme qui apparaît et qui est effectivement beaucoup, qui tourne beaucoup, mais je pense que c'est aussi en relation avec le fait qu'aujourd'hui on est très sensible à notre bien-être, et que du coup il faut nommer tout ce qui est nocif. On est beaucoup plus attentif aujourd'hui, alors surtout dans un couple, à ce qui ne me fait pas du bien versus il y a 40 ou 50 ans, et je pense que ce terme est arrivé à point pour pouvoir nommer ça, parce qu'on est quand même dans une époque où, à juste titre, mais les attentes du couple sont quand même importantes sur tout ce qui est bien-être, épanouissement, valorisation, et que pour nommer tout ce qui vient entraver ça, est arrivé en fait ce mot toxique.
Bonjour Céline.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour, d'où appelez-vous Céline? D'où appelez-vous?
Alors, je vous appelle de Antwerp, donc en Anvers, en Belgique. J'habite là depuis 16 ans maintenant.
Alors, quel est votre témoignage, Céline?
Alors, mon témoignage, c'est pour parler justement de cette relation sous emprise. Alors, toxique, bien sûr, j'ai bien suivi l'émission, je le décrirai pas comme ça, mais voilà, sous emprise, et depuis 16 ans avec mon conjoint. Et je voulais parler justement plus spécifiquement du rapport entre la somatisation du corps, comment le corps somatise ce qui est impossible à décrire et à justifier, en fait, parce qu'il faut savoir qu'on vit avec des gens qui mentent, pas un mensonge classique, mais c'est toujours une petite torsion de la réalité, c'est un peu du vrai, un peu du faux, et petit à petit, tous les problèmes qu'il y a dans le couple, tout ça, sont toujours de votre faute, mais c'est à cause de toi, mais regarde-toi, comment t'es. Et bien sûr, l'image publique est bien, bien différente. Et je voulais juste parler de ça, en fait, de cette... Moi, je suis toujours dans la relation. Pour l'instant, je peux pas partir. Financièrement, c'est assez bloqué, assez isolé.
Ça fait 16 ans, vous nous avez dit que ça a duré depuis 16 ans au standard.
Voilà. Et bien sûr, j'ai ouvert les yeux depuis 2 ans seulement. Hein, ouvert les yeux, c'est-à-dire que je grâce à des psys incroyables, grâce au sport, grâce à ma prof de Pilates, grâce à des médecins qui ont pu décoder finalement qu'est-ce que mon corps racontait, parce que mon corps était dans un état pitoyable, voilà, 53 kilos, à plus pouvoir rien manger, des bactéries dans l'intestin, enfin bon bref. Voilà, mais on peut s'en sortir d'abord quand l'esprit comprend qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais dans cette relation, c'est une continuation de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, en fait, parce que c'était la relation de mes parents. Voilà, donc tout ça, ça aide, et le jour où on comprend, bah, le corps, il offre une drôle de résilience et un drôle de signal que, eh ben ouais, c'est ça. Et vous commencez à aller mieux. Et je veux juste témoigner ça, que c'est possible, en fait. C'est possible et c'est la seule clé. Mais il faut d'argent. Sans d'argent, je ne sais pas comment ce serait possible, en fait. Si mon conjoint n'avait pas assez d'argent, et quelque part dans ce rapport un peu pervers de dire, bah, t'as vu, je m'occupe de toi, tu peux te payer des psys et tout ça, ce qui est assez morbide, hein, mais je dis, au moins j'ai la chance de pouvoir
Clotilde
le faire.
Clotilde Leville a envie de vous répondre. Vous avez, je précise, écrit un livre qui s'appelle La Déprise. Céline parlait d'emprise. Hein. Vous venez de publier au Seuil La Déprise, essai sur les ressorts intimes de la désobéissance.
Oui, parce que madame a prononcé donc le terme d'emprise, et c'est un terme aussi auquel je me suis intéressée pour essayer de comprendre, d'un point de vue psychanalytique, qu'est-ce qui fait qu'un sujet peut se sentir sous l'emprise d'un autre, c'est-à-dire ne pas parvenir en quelque sorte à désobéir à quelque chose qui s'impose comme une exigence. Et il me semble que la question de l'emprise, elle est complexe et qu'elle renvoie aussi à une dimension inconsciente, une dimension qu'on appelle aussi pulsionnelle en psychanalyse, et que finalement, elle s'enracine aussi peut-être dans une expérience amoureuse qui tourne d'une certaine façon, qui conduit le sujet à perdre de vue quelque chose de son désir.
Cécilia Comeau.
Oui, je rebondis sur ce que vous disiez, Céline, sur quand on comprend. Et je pense qu'effectivement, il se joue vraiment quelque chose à ce moment-là. À mon avis, une des raisons principales, entre autres que comprendre ce qui nous arrive, c'est quand même nous redonner du pouvoir, hein, c'est que dans les relations toxiques, il y a une vraie... le réel se brouille, et il ne se brouille pas d'un seul coup. Il faut longtemps pour réaliser qu'à un moment donné, sa perception du réel est complètement floue et brouillée. Et à partir du moment où on comprend, c'est aussi à partir du moment où le réel se réimpose à vous, et il y a comme une espèce de voile, en fait, qui se déchire. Et effectivement, il y a plein de choses qui, à ce moment-là, s'alignent, en l'occurrence, dans le corps.
Merci beaucoup, Céline, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Comment repérer une relation toxique et comment y mettre fin? On continue à en discuter avec nos invités. On écoute The Slits, I Heard It Through the Grapevine, une chanson sortie en 1979. Et Julien, à la technique, se moque de mon anglais. C'est bien, c'est gentil, ça. C'est très gentil. C'est pas du tout toxique, ça. 10h24 sur Inter. Me my surprise, I must say, when I fall. The Slits interpréter I Heard It's Through the Grapevine.
France Inter.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis devenu quoi pour toi? Je suis qui?
Je vais pas discuter avec toi là, parce que c'est pour entendre les mêmes trucs que d'habitude.
Si, tu vas discuter avec moi parce qu'on a fait deux gosses.
Grand bien vous fasse.
Tu peux pas disparaître comme ça, ça me fait du mal. Tu sais très bien que tu me fais du mal.
Faut que tu te soignes, Antoine.
C'est qui pour dire ça?
J'arrive.
Tu fais ta peine là.
Ali Rebbi.
Comment repérer une relation toxique et comment y mettre fin? C'est notre thème ce matin avec nos expertes Clotilde Le Guil et Cécilia Como. Alors Cécilia Como, je rappelle que vous êtes sexologue clinicienne et psychanalyste. La relation toxique n'est pas qu'un ressenti, hein. C'est une relation qui produit des effets réels et observables.
Hein. Et voilà, c'est ça, et qui sont observables. Donc c'est pas subjectif. Les gens qui le vivent, si ils se regardent chronologiquement à une certaine date, puis 10 ans après, par exemple, dans la même relation, clairement, il y a une, et ils le disent d'ailleurs, hein, il y a une baisse de l'estime de soi, il y a de l'anxiété, beaucoup, du stress, parce qu'on mesure ce qu'on dit, comme disent, je marche sur des œufs, donc ça, au quotidien, c'est absolument délétère. Et puis, certaines personnes ont des symptômes dépressifs, certaines personnes vont basculer dans l'alcoolisme, donc qui est une manière en fait de s'auto-soigner, les effets sont redoutables, c'est très sérieux.
Et que se passe-t-il si on s'expose de façon répétée à des relations toxiques, humiliantes, dévalorisantes? On peut s'exposer à long terme à une forme de stress post-traumatique?
Oui, évidemment que à un moment donné, quand le cerveau est submergé par devoir gérer en fait des attaques permanentes, il y a une adaptation. C'est ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, effectivement, comme dans tout stress post-traumatique, les gens vont en fait avoir peur de plein de choses, même de ceux dont ils ne devraient pas avoir peur. Et toutes les études médicales.
Il y en a une que j'ai sous les yeux, hein, avoir dans son entourage une personne toxique a des conséquences psychologiques, mais pas seulement. Selon une nouvelle étude publiée par les chercheurs de l'Université de New York, une relation toxique peut dégrader la santé mentale, physique et accélérer son vieillissement. C'est une étude qui a été réalisée sur 2300 volontaires qui vivaient dans l'État de l'Indiana aux États-Unis.
Oui, alors pour faire clair pour nos auditrices et auditeurs, c'est qu'en fait, quand on mesure des gens qui ont été exposés très longtemps dans une relation toxique, le vieillissement chronologique de notre carte d'identité ne correspond plus au vieillissement biologique. C'est-à-dire qu'on vieillit beaucoup plus vite, on s'expose à des maladies, comme on dit, de vieillesse, comme les maladies cardiovasculaires ou dégénératives. Et ça, cette étude le prouve, ils ont fonctionné sur un système épigénétique, mais une autre étude fonctionnait sur la taille de nos télomères, qui sont quand même très importants, ces petits capuchons qui sont aux extrémités des chromosomes. Et plus on a vécu dans du stress relationnel, plus ces télomères sont courts, et donc plus on est sujet effectivement à un vieillissement global de l'organisme. Ça aussi, c'est observable et mesurable.
Clotilde de Le Guil, je rappelle que vous êtes psychanalyste et philosophe et que vous publiez en poche l'ère du toxique. Ce que démontre la relation toxique, c'est que les paroles, les mots peuvent avoir des effets, les effets d'un poison qui nous affecte corps et âme.
Oui, et je pense que c'est quand même important de maintenir la perspective subjective, parce que il y a peut-être en effet des études qui permettent de constater des effets, disons, qu'on cherche à objectiver, voire à quantifier, mais dans l'expérience d'une analyse, justement, ce qui nous permet de nous sauver, c'est pas de s'éprouver comme étant un exemplaire d'une étude. Ce qui nous permet de nous sauver, c'est justement de nous plonger nous-mêmes dans ce qu'il y a de plus singulier, de plus intime, de plus propre au fond à notre histoire, hein, pour essayer de saisir ce qui fait que on éprouve une modalité de malaise qu'éventuellement on a désigné comme toxique. Donc effectivement, moi je me suis intéressée aussi au discours qu'on dit toxique, parce que ça, c'est aussi une dénomination qui a une portée même éthique et politique. Vous savez que c'est Klemperer, qui était donc un linguiste qui a écrit de façon clandestine sous le Troisième Reich, LTI, la langue du Troisième Reich, qui le premier emploie cette métaphore du toxique pour désigner l'effet que peuvent faire certains mots qui peuvent agir comme une dose d'arsenic dans le corps et nous empoisonner. Et évidemment, il pense ici à la langue du Troisième Reich qui vient en quelque sorte empoisonner chacun et déshumaniser chaque sujet dans son rapport à sa langue. Donc je pense qu'il faut aussi donner une portée politique à ce terme de toxique, parce qu'il y a en effet certains discours qui finalement produisent une forme de psychologie des foules, une hypnose, hein, et qui finalement nous font perdre notre capacité de jugement, hein, par rapport à certains choix.
Bonjour Lola, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. D'où appelez-vous ? Bonjour. D'où appelez-vous Lola ?
De Toulouse aujourd'hui, mais je suis de Rodez plutôt.
Ah, c'est pays comme on dit. C'est,
exactement. Hein,
alors Lola, quelle est votre question ?
Alors merci déjà pour la qualité de vos échanges, et ça m'a évoqué moi une autre réflexion. J'ai l'impression qu'on peut avoir tendance des fois à se réfugier en se disant c'est l'autre qui est toxique et à se rassurer peut-être en le disant, mais je me demandais est-ce qu'on peut être potentiellement tous le toxique de quelqu'un, et comment identifier nos propres comportements qui peuvent être toxiques ?
Très très bonne question de Lola.
Clotilde. Oui, mais merci Lola pour votre question. Moi, ça me semble très important en effet de pas tout mettre du côté de l'autre, parce que si on met tout du côté de l'autre, finalement, comment est-ce qu'on peut se sortir de ce qui vient nous empoisonner ? Il faut à un moment aussi essayer de voir quel est le levier, c'est-à-dire aussi la responsabilité, une part de responsabilité du sujet dans ce qui lui arrive, sans méconnaître bien sûr la dimension de mauvaises rencontres et également de systèmes de domination, hein, qu'il faut aussi reconnaître. Et donc, il me semble important aussi de reconnaître que le sujet lui-même peut aussi consentir à une forme de destructivité, c'est-à-dire être toxique au sens où il se détruit et où il se laisse dériver vers ce que Freud a nommé la pulsion de mort. Et cette pulsion de mort, elle est en chacun de nous, et nous ne sommes jamais quittes finalement avec ce penchant à la destructivité. Et donc, on pourrait dire que, pour répondre à la première question que vous aviez posée Ali, ce terme de toxique a aussi à voir avec la pulsion de mort en chacun.
Cécilia Comeau, on peut peut-être répondre à Lola, parce que la relation toxique répond à un certain nombre de critères. Cécilia Comeau, plusieurs
oui,
critères pour évaluer une relation toxique.
Et pour continuer ce que disait Lola, effectivement, ce qui est toxique de manière générale, c'est le lien. C'est pas forcément l'autre, c'est le lien. Moi, quand on me décrit quelqu'un de toxique, je dis toujours, ok, mais ce qui m'intéresse, c'est vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans, en fait. Donc c'est, il y a toujours effectivement une interaction. Quelqu'un ne peut être que toxique à deux. On peut pas être toxique avec un mur. Il nous faut bien quelqu'un en face de nous qui accueille ou n'accueille pas d'ailleurs cette toxicité. Dans le lien, ce qu'on se rend compte en tous les cas de ce qui est nocif dans un lien, voilà, pour pouvoir le dire plus simplement, c'est ce qui va être de l'ordre du contrôle masqué. Donc ça, c'est beaucoup plus subtil. Ça va être des gens qui expliquent à l'autre, ah, tu fais comme ça, ah ouais, moi j'aurais préféré que tu fasses comme ça. Donc la personne n'est pas forcée. On lui laisse encore croire qu'elle a un peu de pouvoir.
En tout cas, la relation toxique dégrade la liberté psychique ou comportementale.
Toujours.
Et puis, elle repose aussi sur une dynamique répétée de dévalorisation, de domination ou d'instrumentalisation. Et puis, vous l'aviez dit tout à l'heure, la relation se maintient au détriment du bien-être de la personne, malgré ses tentatives de rupture ou de fixation de limites. Voilà des critères qui peuvent peut-être éclairer sur le fait qu'on est peut-être sur une relation toxique.
Oui, mais il faut aussi que chacun revienne sur qu'est-ce qui fait que je tolère ça. Ça, c'est vraiment important. Céline nous disait tout à l'heure, elle a parfaitement conscience maintenant de ce qui se passe. Elle le tolère parce qu'elle est bloquée financièrement. Donc, c'est vraiment important de réussir à voir quelle est ma part, qu'est-ce que je joue, en fait, dans cette interaction toxique, parce que ça permet aussi d'avoir une vision plus en hauteur.
Et ce qui compte pour vous, Cécilia Como, c'est pas l'intensité, mais la répétition d'une dynamique. C'est ça qui compte le plus.
Toujours, ouais. Dans les couples, même quand on parle d'infidélité, par exemple, hein, c'est pas l'intensité, parce que je pense que le couple est résilient, très résilient. Mais c'est la répétition finalement abîme complètement les individus qui n'ont plus ensuite les ressources pour cette résilience, en fait.
Lola, j'espère que nous avons répondu à votre question.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé, Cécilia Como, du contrôle masqué, oui. Un exemple concret de relations toxiques. On peut donner des exemples de phrases, hein, par exemple, que vous donnez sur...
Oui, je préfère que...
Voilà, je préfère quand tu t'habilles comme
voilà.
Ça.
Je te laisse le choix, ouais. Mais quand même, je t'explique que ça serait bien que voilà. Tu ailles dans mon sens.
J'aime pas trop quand tu vois telle ou telle personne.
Voilà.
Rien n'est officiellement prohibé, mais peu à peu, l'autre s'adapte au choix de la personne
oui.
Toxique pour éviter tension et désapprobation.
Oui, parce qu'en fait, je réfléchissais pendant que vous parliez, je me disais, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre est en train de dire, ça me contrarie. Et comme on est dans des relations amoureuses au départ, eh ben, évidemment qu'on n'a pas envie de contrarier l'autre. Donc l'autre avance toujours cette idée de ça me contrarie. Pour moi, c'est ça le contrôle masqué. Tu fais comme tu veux, soit tu as envie de me contrarier, soit pas.
Il y a aussi le contrôle coercitif. Alors là, la personne vous contrôle.
Il est plus visible, oui.
Vous contrôle de façon directe et intrusive. Hein.
Oui, alors il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens. Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle? Ce genre.
T'es
de...
où? T'es avec qui?
Voilà, exactement.
Il faut en permanence se justifier.
Ah oui, parce que la personne est contrariée, la personne va bouder, la personne va. Je vais rentrer, j'aurai la soupe à la grimace, etc. Il y a des mesures de rétorsion quand on n'obéit pas. Hein.
Et là, vous vivez dans une prison. Transparente où vous n'avez plus vraiment le droit d'exister en dehors du regard de l'autre qui vous empoisonne la vie. Il y a le dénigrement aussi.
Oui, alors bah oui, c'est tout ce qui va être ça te va pas très bien quand tu mets ça. T'es sûr que tu veux sortir avec cette robe ou une coiffure? C'est comme ça aussi que l'estime de soi finalement ouais. Dégringole. L'autre vous explique la main sur le cœur qu'il est totalement sincère, que soit vous avez envie qu'il vous mente, soit vous avez envie de sincérité, et donc faut être capable d'accueillir la sincérité.
Et là, ce sont des remarques répétées pour vous rabaisser, vous humilier. Il peut s'agir de moquerie, de sarcasme, de comparaison ou
oui,
de critique.
Oui. Des gens qui m'ont dit en soirée, il m'a dit devant tout le monde, ah ouais mais vous la connaissez pas, hein, si on la laisse faire c'est un vrai bazar. Hein.
Et ce qui est pervers, c'est que la personne qui reçoit ce tombereau de remarques rabaissantes et humiliantes va tout faire pour mériter le lien, de faire mieux. Je vais essayer de faire mieux pour mériter le lien.
Oui, parce qu'on se réfère toujours au lien, la référence c'est toujours le début, malheureusement, et le cerveau aussi a enregistré dans son système de récompense le début. Donc les gens ont l'idée que ces remarques sont justifiées et que pour qu'elles n'existent plus, il faut juste mieux faire.
Et à côté du dénigrement, il y a le mépris. Là, on critique clairement votre identité, ce que vous êtes et non plus ce que vous faites.
Absolument. Par exemple, les gens qui ont pris des kilos j'avais une patiente qui me disait, je vais au sport tout le temps, et quand je lui ai dit, t'as vu, hein, je suis assidu, il m'a répondu, ah ben ça se voit pas.
Ouais. Voilà. L'outil de Le Guil.
Oui, non, je voulais reprendre la question de ce qu'on appelle en psychanalyse le surmoi. C'est quelque chose que vous avez dit qui m'y a fait penser, mais là tout d'un coup ça m'échappe. Mais le fait d'obéir au fond, d'obéir sans savoir exactement à quoi on obéit, et d'obéir au nom de l'amour. Ça me semble une dimension importante. Je pense au récit de Vanessa Springora, Le consentement, où effectivement, il est question de la rencontre avec un pervers, mais il est aussi question pour elle d'interroger, bien qu'elle ait 14 ans et qu'aujourd'hui, de toute façon, la loi considère qu'il n'y a pas de consentement à 14 ans avec un homme de 50 ans, mais j'ai trouvé très très intéressant et très fin cliniquement la façon dont elle interroge son propre consentement, c'est-à-dire la façon dont elle a pu se soumettre à des exigences finalement qu'elle s'impose aussi à elle-même au nom de l'amour. Et ça, c'est un point qui m'a intéressé aussi par rapport à ce que Lacan a pu montrer du rapport du sujet féminin à l'amour, la façon dont, finalement, se croire aimé ou vouloir à tout prix s'instituer comme étant l'objet unique de l'amour de l'autre peut conduire aussi à une forme de méprise hein, qui peut ensuite finalement conduire aussi à s'éprouver sous emprise.
Si je vous comprends bien, dans la relation amoureuse toxique, on s'égare, on se perd, on se détruit au nom de l'amour.
Alors, on peut effectivement
décrire... On accepte beaucoup de choses au nom de l'amour.
Voilà, on peut décrire une certaine modalité, en tout cas du rapport à l'amour, plutôt chez les sujets féminins, qui a à voir avec cet au nom de l'amour et avec cette croyance surtout en l'amour. C'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là l'expérience d'une angoisse de ne pas savoir exactement à qui on a affaire, de quoi relève le désir de l'autre, ce que l'autre attend de moi, et finalement répondre à cette angoisse par c'est de l'amour, se croire aimé.
Clotilde, pardon, Cécilia Como, des amis, des membres de sa famille, des proches peuvent nous alerter sur la toxicité de ce que l'on est en train de vivre. On ne se rend pas compte que quelque chose ne va pas et on n'arrive pas à couper le lien toxique au nom de l'amour. Et pourtant, autour de soi, on a des gens qui vous alertent, qui allument les warnings. Et pourtant, il y a une forme d'aveuglement.
Mais il y a quelque chose dans ces relations d'assez constant, c'est des chauds et des froids, c'est des hauts et des bas. Et ça, ça crée une dépendance affective plus sûrement que toute autre chose. Donc, c'est souvent des gens qui vont me dire, je ne veux pas que ma famille ou mes amis le considèrent mal. Avec cette notion, en fait, qu'il a des bons côtés. Et effectivement, ça fonctionne parce qu'il y a quand même des bénéfices relationnels à un moment donné. Ce ne sont pas que des relations monstrueuses, sinon ça éclaterait aux yeux des gens immédiatement. Donc il y a cet enfermement d'abord parce qu'on ne sait pas trop expliquer la nature de la relation. On pressent quand même qu'il y a quelque chose qui devrait pas être, mais voilà, il est comme ça, nous c'est particulier. Et je trouve et je vois que cet isolement est finalement c'est un peu le dernier clou sur le cercueil, pardon pour l'expression, mais c'est vrai que les gens ensuite se souviennent et se disent oui c'est vrai mes amis m'avaient dit, mais il y a une telle idée, il y a une telle volonté à défendre en fait la relation, à essayer je pense aussi de se dire j'ai pas pu me mettre dans quelque chose d'aussi mauvais, c'est que ça doit être bon et que les autres ne s'en rendent pas compte. On arrive en fait à ne plus être cohérent avec soi-même parce qu'ensuite il faudrait tout dérouler et tout expliquer. C'est tout le travail que ces personnes feront quand elles quittent ce genre de relation.
Clotilde Le Guil, c'est un peu à cause du grand mythe de l'amour-passion qu'on reste englué dans une relation de couple toxique.
Ce qui est compliqué quand même, c'est que l'amour n'est jamais libre et éclairé. C'est-à-dire qu'on n'est jamais très cohérent avec soi-même lorsqu'on a affaire à l'amour, au désir et à la jouissance. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une région à explorer et des frontières à essayer de poser entre le malentendu amoureux, la complexité de la rencontre avec le désir de l'autre et ce qui va vraiment prendre la forme, la tournure hein, d'une relation destructrice qui va finalement conduire le sujet à sacrifier son propre désir.
Dans un instant, nous verrons quels sont les antidotes, hein, les contrepoisons à une relation toxique. Éléments de réponse après avoir écouté David Walters qui interprète Vinnie Jouen Mouen. 10h44 sur Inter.
Ici dans l'ouvrage en moins,
David Walters interprétait Vinnie Joanne-Mouenne.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment repérer une relation toxique et comment y mettre fin avec Clotilde Le Guil et Cécilia Como. Et nous accueillons Laurent de Corrèze. C'est bien ça, Laurent ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, quel est votre témoignage, Laurent ?
Alors moi, je voulais faire part de mon problème. Je suis en couple depuis quelques années. J'adore ma compagne. Mais malheureusement, quand nous avons une discussion, où j'ai du mal à me maîtriser et le ton monte. Alors bien sûr, je ne suis pas violent physiquement, mais verbalement, ça prend beaucoup d'importance. Et au lieu de me calmer, au lieu d'aller respirer 5 minutes et revenir, la solution que je trouve la meilleure, c'est de prendre ma voiture et de rentrer chez moi, puisque nous avons chacun notre maison. Voilà, et je boude pendant 2 jours, 3 jours, et après je reviens. Mais aujourd'hui, ma compagne en a assez de cette situation et voudrait qu'on y mette un terme.
Vous considérez...
Moi, j'ai pas envie du tout.
Ou Laurent, vous considérez que c'est vous, entre guillemets, la personne toxique dans le couple, si j'ai bien compris?
Je sais pas si je suis toxique, me fait un peu peur, mais
c'est peut-être votre femme, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret du couple.
Puisque je ne suis pas capable de rester calme, quoi. Oui.
Cécilia Como.
Bah oui, donc là, Laurent, effectivement, on revient à l'idée que dans le lien, il y a quelque chose de nocif pour vous, d'abord, parce que c'est pas non plus agréable pour vous, j'imagine, qu'ensuite, quand vous rentrez chez vous, il y a quand même de la culpabilité et de la gêne, et surtout pour elle. Là, je pense qu'il s'agit plus, en fait, de ce qu'on appelle des comportements impulsifs, une mauvaise gestion, en fait, de la colère et de la frustration, plutôt qu'autre chose, mais oui, de son côté à elle, c'est forcément vécu comme très méprisant, parce que quand même, je vais rappeler que bouder, c'est vécu comme très méprisant, que quand vous haussez la voix, Laurent, vous faites monter en elle le danger, parce que quelqu'un qui crie, quelqu'un d'agressif, active en fait chez la personne qui est en face un mécanisme de peur. Donc en fait vous mettez, si on regarde juste biologiquement ce qui se passe pour la personne qui est en face de vous, vous la mettez dans une situation où tout s'active pour se protéger, clairement le stress, l'anxiété, ce qui n'est pas bon du tout de faire activer en permanence ces mécanismes. Donc je pense que il est assez important que vous puissiez voir quelqu'un pour expliquer que vous ne gérez pas en fait cette frustration et que ça, c'est en train d'avoir des répercussions très importantes sur votre couple, oui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir appelés. Et nous accueillons Emma. Bonjour, Emma.
Merci,
vous appelez...
au revoir.
Au revoir, Laurent. Bonjour, Emma. Bienvenue.
Oui, bonjour. Merci. Et merci pour vos émissions.
Merci. Vous appelez de Bordeaux.
Oui, c'est bien ça.
Alors, quel est votre témoignage?
Alors, en fait, moi, j'ai 58 ans aujourd'hui. Et je n'ai eu, par une, quand j'étais très jeune, que des relations toxiques, voire très toxiques. Et j'ai pris le parti, depuis mes 50 ans, de cesser toute relation. Je ne veux plus rencontrer personne, par crainte.
Ah. Voilà. Et est-ce que vous êtes reconnue dans les critères de la toxicité qu'on a évoqués tout à l'heure?
Oui, absolument. Oui, des gens... De l'emprise, du dénigrement. Enfin, moi, ça finit par des violences aussi. Hein. Et je me demandais, en fait, si on pouvait attirer les relations toxiques ou est-ce que c'est parce qu'on l'est nous-mêmes qu'on attire les gens toxiques.
Ah, c'est très intéressant, ça, Clotilde Le Guil.
Oh, je ne sais pas s'il faut se poser la question de cette façon accusatoire, c'est-à-dire soit en accusant l'autre, soit en s'accusant soi-même. Je crois que ce qui est plutôt précieux, c'est peut-être de réussir à se questionner à un moment sur ce qui peut se répéter dans notre existence. Parce qu'au fond, effectivement, le temps passant, et c'est souvent ce qui fait qu'on commence quelquefois une analyse, on s'aperçoit que effectivement, il n'y a pas seulement le pas de chance, il n'y a pas seulement c'est la faute de l'autre, mais il y a aussi quelque chose qui vient à se répéter toujours de la même façon.
C'est la répétition d'un scénario
existence.
De vie.
Oui, Freud appelait aussi ça la névrose de destinée. Hein. C'est vraiment à une échelle où on n'est plus simplement dans la situation actuelle, mais on est dans une interrogation sur ce qui nous arrive presque à la façon d'un destin. Et là, on touche à la dimension de l'inconscient.
Cécilia Como.
Oui, j'ai souvent dit la rencontre relève du hasard, mais le reste pas du tout. Donc on ne tombe pas sur des gens, on n'attire pas des gens, on choisit des gens. Et c'est peut-être là où commence la réflexion de pourquoi je choisis ce genre de personnes.
Merci beaucoup Emma pour votre témoignage. Alors, un signal, hein, avant de donner quelques contrepoisons à une relation toxique, un signal très important d'une relation toxique, c'est la peur, Cécilia Como. La peur qui ne se manifeste pas forcément par des cris ou des coups, mais par exemple, on va éviter le conflit à tout prix, on va anticiper les réactions de l'autre.
Absolument. On va se justifier en permanence pour expliquer pourquoi, et on va plus fonctionner avec la peur d'une conséquence ou d'une réaction que par, je vais reprendre un mot que Clotilde aime et que j'aime beaucoup, que par désir. Et donc là, ça change complètement la dynamique d'une vie, en fait, de fonctionner sur la peur plutôt que sur le désir.
Alors comment mettre fin à une relation toxique? Qu'est-ce que vous nous conseillez, Cécilia Como?
Alors, première
chose... Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut quitter la personne?
Je vais vous dire, c'est en deux temps. La première chose, c'est quand les gens sont en danger, oui, évidemment, de dire écartez-vous, mais il faut quand même que la personne prenne le temps de comprendre ce qui s'est joué pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette histoire? Qu'est-ce qu'elle a accepté? Ça, c'est évident. C'est pour ça que c'est un travail qui est souvent compliqué derrière. Mais je pense que la première chose, c'est de stopper, en fait, de vouloir arrêter de convaincre l'autre de sa réalité. Parce que souvent, il y a cet échange où on va tenter, en fait, de le convaincre de son réel. Ça, c'est un peu peine perdue, parce que de toute façon, l'objectif, c'est de vous décrocher de votre réalité à vous. Je pense que c'est aussi bien que les gens arrivent à avoir un espace à eux, psychique à eux, et souvent, ça se fait difficilement. Moi, j'ai des gens qui me disent, je suis obligée de mentir, en fait. Je vais raconter que je suis là, alors que je suis pas là. Mais c'est parce que, voilà, si je dois me justifier sur ça, et puis surtout de s'appuyer sur des tiers fiables, parce que en réalité, de confiance, en réalité, c'est l'isolement qui fait que on perd sa boussole. Il faut vraiment, plus on va s'entourer de gens solides en qui on a confiance, et plus on va pouvoir se distancer un petit peu de cette relation et la regarder avec un petit peu plus d'objectivité.
Ça peut être évidemment un membre de sa famille, un ami, un médecin.
Oui.
Un professionnel de santé.
Oui, je pense que une des priorités, c'est de ne pas vouloir sauver la relation, parce que les gens viennent quand même en première instance pour ça. C'est de se dire que il faut qu'ils préservent leur intégrité psychique, leur sécurité intérieure et leur liberté. Et avec ces trois éléments, qu'ils regardent comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça en place.
Quel est votre contrepoison, Clotilde Le Guil, votre antidote à une relation toxique? Si je vous ai bien lu, c'est le désir.
Oui, moi, je me suis pas référée au bien-être, je me suis plutôt référée au désir. Et d'abord, qui peut prendre une forme très simple, qui est le désir de savoir quelque chose de ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire le désir aussi d'essayer de déchiffrer ce qui nous est arrivé. Et en effet, cela suppose aussi de pouvoir se fier à nouveau à l'autre quand on a été en proie finalement à une forme peut-être de trahison qui a produit une méfiance et peut-être aussi un abandon de la dimension de la parole. Et effectivement, l'expérience de l'analyse, c'est aussi une expérience qui conduit à se fier à un autre à qui on peut dire ce que l'on n'était jamais parvenu à dire sans redouter d'être jugé.
On peut le dire aussi, Cécile Accomo, son journal, écrire un journal.
Oui, parce que ça, pour le coup, c'est factuel. Et justement, dans les relations toxiques ou nocives, comme il y a une perception de la réalité qui est extrêmement questionnée par la personne elle-même, qui n'a plus vraiment de boussole. C'est vrai que rendre les choses très factuelles, ça ancre en fait les événements dans quelque chose un peu dépouillé émotionnellement. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui relisent leurs écrits s'appuient sur ça pour se dire clairement je ne suis pas dingue ou je ne suis pas folle.
Hélène nous demande qu'en est-il des relations toxiques en famille, comment garder le lien sans subir la toxicité. Je pense que ça fera l'objet d'une émission entière, les relations toxiques en famille. Merci beaucoup Cécile Accomo, J'ai envie moi non plus, c'est consacré au désir sexuel, c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup Clotilde Le Guil, L'ère du toxique, c'est disponible en poche au PUF, et le dernier ouvrage paru, c'est donc La Déprise au Seuil.
Merci.
Une émission à podcaster et à partager sur les réseaux sociaux depuis l'appli Radio France et les plateformes de streaming. Tous les extraits vidéo de Grand Bien Vous Fasse sont à retrouver sur les réseaux sociaux de France Inter et sur mon compte Instagram. Demain, comment surmonter le syndrome du nid vide? N'hésitez pas à témoigner, racontez-nous comment vous avez vécu le départ de vos enfants de la maison, ou si vous craignez que cela vous arrive bientôt, ça vous fait rire, Clotilde Le Guil.
Je trouve l'expression très mignonne.
Demain dès 10h au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Dans un instant, Nagui et Leïla Kadour Boudadi ont la chance de recevoir Jean Dujardin dans la bande originale.